Phil PM Paranormal.
The flying disc has been found.
El Mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Et comme à chaque vendredi, il vient nous rejoindre, Christian Page, avec les mythes et les complots.
Salut Bernard.
Il n'en manque jamais de cela, n'est-ce pas?
c'est une pépinière fertile.
Oui, c'est une matière inépuisable. Et commençons avec la CIA, tiens. Oui,
écoute Bernard, ce que je vais te raconter nous semble sorti tout droit d'un mauvais roman d'espionnage.
Oui.
Et est-ce que tu as déjà vu le film Le jour du dauphin?
Je dois dire que je n'ai pas vu Le jour du dauphin.
Donc, c'est un film de 1960.
J'ai vu Le jour de la marmotte. Non, pas du tout la même chose.
Okay. Mais quoi que ça pourrait convenir ici. Mais dans Le jour du dauphin, c'est un film de 1973 qui met en vedette George C. Scott. Lui, il est un scientifique, il dresse des dauphins. Et là, voilà, il est approché par les services secrets pour utiliser ces dauphins dans des missions d'espionnage. Bon, c'est un truc assez bizarre.
Okay.
Et évidemment, dans les années 70, cette rumeur-là circulait que les services de renseignement américains étaient intéressés par l'utilisation d'animaux dans des missions d'espionnage.
OK.
J'ai l'impression que c'est ridicule ce que je viens de dire. Mais pourtant, c'est vrai aussi qu'à cette époque, il y avait toutes sortes de rumeurs qui venaient de l'Union soviétique. Et les Américains ne voulaient pas se laisser damer le pion par les Russes. On ne savait pas si c'est vrai ce qu'ils faisaient.
C'était quoi les rumeurs?
On disait, les Russes travaillent avec des armes psychotroniques. Donc, une arme psychotronique, c'est une arme dont il n'y a pas de détonateur. Le détonateur pourrait être un humain qui pense. Donc, le pouvoir de la pensée déclencherait l'arme à distance.
Okay.
Donc, ça, c'est une arme psychotronique. On disait également que les Soviétiques travaillaient sur l'utilisation de la parapsychologie, la clairvoyance. Donc, ils utilisaient des médiums.
Okay.
Donc, les Américains ont mis de l'avant un projet tout à fait authentique, le projet Stargate, qui servait justement à évaluer des voyants ou des clairvoyants pour faire de l'espionnage. Et dans cette foulée de projets bizarres, on disait, ils utilisent peut-être aussi des animaux. Mais écoute, il y a quelques jours, ce qui était une rumeur est devenu réalité sur son site, la CIA, parce que quand tu vas sur le site de la CIA, il y a un reading room, donc ce sont des documents que la CIA rend public et que les gens peuvent télécharger et lire.
Mm-hmm.
Et il y a quelques jours, la CIA a mis en ligne des centaines de documents qui remontent aux années 70 et qui montrent que ce projet-là existait bel et bien. Donc, durant les années 70, la CIA a utilisé des animaux, a essayé de dresser des animaux pour faire des missions d'espionnage, en faire des agents très spéciaux. Alors, écoute, j'en ai quelques-unes pendant 10 ans.
OK, je suis bouche bée.
Pendant 10 ans,
non, mais c'est parce que
la CIA a mené des expériences avec des chats,
des
chiens, des oiseaux et même des dauphins pour essayer justement d'en faire des agents spéciaux. Écoute, l'idée, par exemple, on s'est dit, on va dresser des chats.
J'allais dire, il faut que tu le dresses d'abord, lui-là.
Ouais, on va prendre des chats, on va les dresser, on va leur mettre des caméras ou des systèmes d'enregistrement.
Ouais.
Et on va les envoyer, ces chats-là, dans des salles de réunion où il y avait des gros bonnets de l'Union soviétique qui se réunissaient pour discuter.
Ah, j'imagine, une réunion du Politburo.
Il y a un chat qui rentre.
C'est à toi. Ouais, un chat?
Ouais.
Non, c'est pas mon chat, ça. Mon chat est noir, celui-là est blanc ou le vin.
Ça n'a pas fonctionné d'abord.
Ça n'a pas marché, hein?
Pose-moi pas la question, pourquoi il n'y a pas de chat dans la police? J'aime bien les chats, mais...
J'adore les chats. Pour un espion, mon chat Théo ferait un très mauvais espion.
Ils ont fait également la même chose avec les chiens, sauf qu'avec les chiens, on voulait également lui greffer une puce pour pouvoir les guider.
Mm.
Donc, pour les amener à différents endroits et comme ça, faire de l'espionnage. Là aussi, le résultat n'a pas été très, très concret. Ensuite, on s'est mis à dresser des oiseaux. Donc là, on avait... Puis écoute, des sujets là quand même incroyables. On a fait appel à des ornithologues pour savoir quels étaient les oiseaux qui migraient et qui passaient un certain temps soit dans le bassin de la Volga ou encore aux îles Sakhaline. C'était deux endroits de... je raconte ça, j'ai l'air ridicule.
Les îles
Sakhaline, c'est d'ailleurs là où on avait abattu l'avion de la Korean Airlines, tu te rappelles, dans les années 80, je crois au début des années 80.
Oui,
parce que l'avion...
C'était la chasse soviétique.
Les deux appareils de chasse avaient abattu cet avion parce qu'ils survolaient les îles Sakhaline. Et aux îles Sakhaline, il y a là des installations, notamment pour les sous-marins russes, très importants. Donc, ce sont des endroits névralgiques pour les forces soviétiques. Alors, dans les années 70, la CIA CIA s'est dit, on va dresser des oiseaux. Donc, ils ont fait appel à des ornithologues qui ont établi des types d'oiseaux qui migraient et qui passaient, faisaient de longs séjours, soit aux îles Sakhalin ou dans, à la Volga, dans le bassin de la Volga. Parce que dans le bassin de la Volga, il y avait des armes chimiques. On savait que les Soviétiques travaillaient à des armes chimiques. Fait qu'on s'est dit, on va équiper nos oiseaux de caméras.
Oui.
Ils vont filmer tout ça. Donc, on va avoir des plans de leurs installations. Puis, on va leur accrocher également des appareils, notamment pour les oiseaux à la Volga. Sinon, on va leur attacher des appareils après les pattes qui vont permettre de déterminer quelles sont les matières chimiques qu'on retrouve dans l'air. Et ça pourra nous indiquer quel type d'armes chimiques les Soviétiques sont en train de développer.
Ça, ah, okay, mais,
parce que bon, on s'imagine qu'il y a toujours un peu des rémanences, il y a toujours un peu des pertes quelque part.
Par exemple, de la poussière de matière chimique, voilà, ou d'ingrédients chimiques qui entrerait dans la composition de ces armes.
Voilà.
Alors, on fait passer le moineau au-dessus, il capte la poussière, mettons, dans l'air, et là, tu récupères le pigeon, puis mettons que tu as des résultats.
Voilà. On a une augmentation, par exemple, lorsqu'il est dans cette région-là, le pigeon enregistre dans l'air, un taux anormalement élevé, par exemple, de gaz sarin.
Ou de radioactivité.
De radioactivité. Ou peu importe. Les Russes doivent travailler sur des armes avec le gaz sarin.
Mais là, il ne faut pas que le pigeon meure en vol.
Ça n'a pas bien fonctionné, ça non plus. Mais il y avait un agent spécial qui était extraordinaire. Il y avait un corbeau qui s'appelait Douda.
Douda.
Oui. Parce que les oiseaux, généralement, ne volent pas au-dessus de l'océan.
Oui.
Parce que, bon, on comprend, à moins d'être un oiseau comme, par exemple, un pèlerin, là, qui va, un martin pêcheur, qui va plonger dans l'eau pour aller chercher
se nourrir.
Mais généralement, les oiseaux vont pas au-dessus de la mer. Mais Douda, on avait réussi à le dresser pour qu'il puisse faire de très longues envolées au-dessus de la mer et revenir. Alors, on s'est dit, on va y accrocher des caméras après lui. Il va pouvoir filmer la flotte soviétique et venir nous ramener des informations. Le problème, c'est que, de quoi là ou non, Douda a été attaqué par d'autres corbeaux dans sa volée.
Non.
Il s'est envolé puis il est jamais revenu.
Pauvre
Donc, on a perdu un agent spécial. Et enfin, on avait un projet, le projet Oxygaz. Et là...
OK, c'est même pas romancé, ce que tu nous dis là.
Pas du tout.
Ça vient de la CIA, ça.
Ce sont des documents de la CIA. Écoute, il y avait un projet, le projet Oxygaz. Et dans ce projet-là, on dressait des dauphins.
Mm-hmm.
Et là, il y avait plusieurs vocations. Donc, on s'est dit, le dauphin pourrait amener des bombes transporter des bombes qu'il laisserait tomber dans les ports où il y avait des sous-marins soviétiques. Okay. On avait également un autre projet où les dauphins auraient transporté des bombes magnétiques qui auraient été collées sur les sous-marins, sur la coque du sous-marin.
Mmh.
Et là, ben, éventuellement, on aurait pu faire détonner ça. Et on avait même imaginé des dauphins kamikazes, donc sur lesquels on aurait installé des bombes et ils auraient foncé sur les sous-marins pour les faire exploser.
Okay.
On avait également imaginé des dauphins qui apportaient dans les ports où mouillaient justement des sous-marins soviétiques des appareils qui auraient pu filmer ou documenter la signature sonore du sous-marin. Parce qu'il faut comprendre, quand on regarde des films, on voit les gens au sonore qui entendent un bip.
Ouais, ouais.
Chaque sous-marin, chaque type de sous-marin a une signature précise. Donc, on s'est dit, si on met des équipements qui permettent de déterminer la signature sonore des sous-marins soviétiques, de type Typhon, par exemple, les sous-marins américains pourraient plus aisément les détecter au sonore, reconnaître l'enveloppe sonore du sous-marin. Et là, on aurait un pas en avant, parce qu'on le dit souvent, la force d'un groupe de militaires, c'est le secret, c'est d'avoir accès au secret de ses ennemis.
Oui. Mais moi, je...
Ça n'a pas fonctionné.
Mais c'est parce que là, tu dis, OK, ça, c'est théorique. Mais après ça, il faut convaincre le dauphin de faire la job.
Voilà. Donc, c'est exactement ça. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Fait que finalement, après 10 ans de recherche, les chercheurs, combien de millions
dépensés?
Ben voilà. Ouais. Donc, la CIA s'est dit, non, on va peut-être essayer d'engager des espions humains plutôt que de faire appel aux animaux. Donc, le projet Animaux CIA, c'est tout à fait, c'est vrai. Il y a de la documentation là-dessus, mais le projet n'a jamais apparemment été mené à terme.
On peut dire que ça a été un échec.
C'est un... je pense que le mot est bien choisi, Bernard. C'est un échec.
Et on a une pensée pour Douda.
Douda?
Douda le corbeau.
On ne sait pas ce qu'il est devenu.
Attaqué par d'autres corbeaux.
Ah,
pauvre lui.
Ouais, ouais.
Bon, OK. Les ovnis en Angleterre.
Oui, écoute, on le sait depuis quelques semaines, on parle beaucoup d'OVNI. On a même évoqué ensemble cette histoire de film qui avait été reconnu par la US Navy qui circule sur le web. Où là, la Navy dit oui, ce sont bel et bien des images qui proviennent de nos chasseurs. Et là, voilà que dans la foulée de toutes ces révélations, on apprend que le Bureau de l'aviation civile britannique a rendu public une série de documents dans lesquels il reconnaît que depuis mai 2017, ils ont enregistré 36 situations de presque collision. On appelle ça, en anglais, on dit un air miss. Mm. Donc, ce sont des situations où des pilotes civils se sont retrouvés en quasi-collision avec des objets et ils ont fait un rapport en fonction de cette proximité. Donc, ces rapports air miss, l'aviation civile britannique dit on en a enregistré 36 de ces rapports. Elle reconnaît qu'un très grand nombre de ces incidents impliquent très probablement des drones, parce que les pilotes rapportent parfois des petits objets près de leurs avions. Et on le sait, il y a 2 ans à peu près, on avait littéralement bloqué l'aéroport de Gatwick à Londres, justement à cause que des gens utilisaient de manière clandestine dans des zones interdites de ces drones. Donc, l'aviation civile britannique reconnaît qu'un certain nombre, un très grand nombre, sinon la majorité de ces incidents, sont probablement attribuables à l'utilisation de drones dans des zones interdites. Mais elle reconnaît qu'il y a des incidents pour lesquels c'est beaucoup plus mystérieux. Et je sais que tu es un sceptique en ce sens. Oui, alors, je suis allé sur le site du Bureau de l'aviation civile et j'ai fait sortir les rapports.
Alors, il me tend les documents, là.
Écoute, il y a 2 incidents en particulier qui amènent une réflexion. On a 2 pilotes, par exemple, qui se trouvent sur... le document que tu tiens en main, c'est celui d'un Boeing 757.
Oui.
Alors, le pilote se prépare à se poser à l'aéroport et à ce moment-là, il voit un objet assez important qui passe aux côtés de son avion. Il dit que c'est un objet qui a des formes irrégulières et l'incident est passé à moins de 200 pieds, donc à peu près 80 mètres de l'avion, et l'incident se produit alors que l'avion se trouve à 4800 pieds d'altitude. De par sa forme, de par sa vitesse, de par son déplacement, les autorités de l'avion civil ont été incapables de déterminer quelle était la nature de l'objet. Ils n'éliminent pas la possibilité qu'il puisse s'agir d'un drone, mais l'information transmise par le pilote, qui a été très surpris. Quand on lit le rapport, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » Il le voit passer juste aux côtés de son avion, sur le flanc gauche. Et à ce moment-là, les autorités ont été incapables de déterminer la nature de cet objet.
Alors, j'ai le document, là. « The board could not conclude that the object was a drone. »
Voilà. Donc, on n'a pas été capable de déterminer que c'était un drone. Donc, on le classe dans la catégorie « objet volant non identifié ». Il ne faut pas interpréter de manière excessive cette interprétation. « Objet volant non identifié », ça ne veut pas dire « engin extraterrestre », mais ça reste « objet volant non identifié ».
Oui, oui.
L'autre incident est encore plus fascinant. Il s'agit de 2 avions de classe Typhon. Ce sont 2 chasseurs qui se trouvent à ce moment-là à peu près à 15 000 pieds d'altitude. Et l'un des pilotes rapporte la présence d'un petit objet. Il dit l'objet à peu près la taille d'une voiture. Il reflète la lumière du soleil et il va passer à peu près à 2000 pieds au-dessus des 2 chasseurs. L'objet n'apparaissait pas sur les radars. Il se déplaçait à une très, très grande vitesse et il évoluait à une altitude de 17 000 pieds d'altitude.
Oui.
Alors là, encore, le Bureau de l'aviation civile dit c'est une altitude qui est très élevée. Bien sûr, il y a des drones militaires qui peuvent atteindre ces altitudes. Mais les drones militaires, généralement, sont manipulés par des militaires et les militaires tiennent compte généralement des corridors aériens et des manœuvres sur le terrain.
Et ce qui est dit là, ici, c'est que le wingman là, a vérifié de façon indépendante le même objet.
Exact.
C'est l'autre pilote.
L'autre pilote.
L'autre pilote.
Et donc, on a comme le pilote qui signale ça, l'autre pilote est un peu comme en entraînement, voit également l'objet. Vérification, ça se passe à 17 000 pieds d'altitude. On n'a pas de drones civils ou commerciaux qui sont utilisés de manière générale à ces altitudes. Donc, on n'arrive pas à déterminer quelle était la nature de ces objets. Et dans le cas présent, l'objet avait à peu près la taille d'une petite voiture et reflétait la lumière du soleil. Alors, encore une fois, est-ce qu'il s'agissait d'un drone, simplement d'un objet volant non identifié? C'est vrai qu'avec les images rendues publiques depuis quelques semaines, par la US Navy, à tout le moins reconnu par la US Navy, le phénomène des objets volants non identifiés devient de plus en plus préoccupant pour l'aviation civile, voire même l'avion militaire.
L'aviation militaire, dans le cas des typhons, effectivement. Voilà. Là. Wow, ben écoute, c'est intéressant.
Oui.
Évidemment, ça va conforter ceux qui pensent qu'il y en a, des ovnis, qu'il y en a, que le phénomène existe bel et bien. Et Est-ce que c'est parce que les réseaux sociaux, Internet prennent de plus en plus de place dans nos vies? Peu importe la raison, mais les autorités sont obligées d'être de plus en plus transparentes dans la divulgation de ces phénomènes.
Moi, je te dirais, Bernard, que c'est justement ce qui me trouble à propos de ça, c'est de voir, ça fait 40 ans que je fais ça, et l'obtention de documents comme ceux-là...
Officiel, très officiel.
Il y a 10 ou 15 ans, c'était excessivement difficile. Moi, j'avais obtenu des documents de l'aviation civile britannique. Il y avait fallu à ce moment-là que je passe par le bureau de l'OACI, ici à Montréal, pour pouvoir obtenir ces documents. Et aujourd'hui, ces documents-là sont d'une très grande transparence, accessibles à peu près à n'importe qui. C'est quand même fascinant de voir cette ouverture.
Tout à fait, tout à fait. Christian Page, je te remercie.
Ça me fait plaisir, Bernard.
Et je remercie mon équipe, Larry Dufresne, Maryse Duchesneau, Alexandra Marcoux. Vous êtes formidables. Une chance que vous êtes là. Une chance que vous êtes là, vous aussi, les auditeurs. Merci d'être fidèles au poste. On se souhaite un beau week-end de l'Action de grâce. Et on se retrouve mardi prochain. Bye!